Eh bien, bonjour, bienvenue effectivement aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois ce matin. Merci pour... Je ne sais pas si ça va marcher la télécommande parce que j'ai le... j'ai la clé USB ici. Voilà, je la pose là. Merci beaucoup, Alexis. Effectivement, nous allons continuer notre parcours dans la série sur le livre de l'Ecclésiaste. Et tout ce que nous avons entendu dans la première partie de ce culte prépare bien à ce que nous allons entendre maintenant. Parce que l'Ecclésiaste, on le sait déjà depuis un petit moment, n'aborde pas des sujets très faciles. Mais alors, le sujet d'aujourd'hui est peut-être bien celui qui est le plus compliqué. Celui qui nous touche. Tous, de près ou de loin, et qui nous touchera tôt ou tard. Je vous invite à suivre dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, les versets 18 à 22, la référence s'affiche ici, et j'affiche également le texte ci-après. Je me suis dit dans mon cœur, au sujet des humains, que Dieu allait les éprouver pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des animaux. Car le sort des humains et le sort de l'animal sont identiques. Tout comme l'un meurt, l'autre meurt aussi. Ils ont tous un même souffle. L'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul, car tout est vanité. Tout va au même endroit. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle de l'être humain qui monte, quant à lui, vers le haut, tandis que le souffle de l'animal descend vers le bas, à la terre? J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir au milieu de ses activités, car c'est là sa part. En effet, qui le fera revenir pour qu'il voie ce qui sera après lui? L'Ecclésiaste continue ici son cheminement avec une réflexion sur la mort. La mort et ses implications pour la condition humaine. La mort est très certainement l'une des réalités, sinon la réalité la plus difficile se rapportant à l'existence humaine, puisqu'elle vient précisément y mettre un terme. La prédication précédente portait sur le chapitre 3, les 17 premiers versets, donc juste avant notre texte, et nous avions abordé la réflexion sur le temps. On se souvient, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Et le lien entre nos deux textes est évident. La mort, c'est ce point final à notre activité humaine, c'est ce point final à toute cette succession de temps qu'il y a dans la vie présente, sous le soleil. J'affiche la structure du livre de l'Ecclésiaste, structure en chiasme. On avait vu que là aussi, avec le prologue et le postlogue, qui sont ici en vert, il y a deux poèmes qui encadrent l'ensemble du livre, et chacun de ces poèmes aussi fait référence, chacun à sa manière, au sujet de la mort. Le prologue y fait allusion quand il est question de ces générations qui se succèdent. Chaque génération finit par s'éteindre et laisser la place à la suivante. Et puis, dans le postlogue, le poème sur la vieillesse qui présente la mort sous un angle très poétique avec des images très poignantes. Et nous y reviendrons à la fin de la série. J'attire notre attention là-dessus parce que le thème de la mort, il est finalement transversal à tout le livre. Prologue, postlogue, et puis à différents endroits, comme aujourd'hui au chapitre 3, tout comme en fait cette thématique de la mort est transversale à toute notre vie, car la mort est partout autour de nous, dans les deuils que nous traversons, dans les informations qui nous parviennent, et puis tôt ou tard, elle nous touchera nous-mêmes. Dans les versets 18 à 20, l'Ecclésiaste dresse le constat que devant la mort physique, Les êtres humains ne sont pas différents des animaux. Leur sort est identique. Tous meurent, êtres humains comme animaux. Un même souffle anime les humains et les animaux. Ce souffle, c'est le souffle respiratoire. D'ailleurs, le souffle évoque quelque chose de fragile. Le souffle s'arrête et c'est fini. Que ce soit pour l'homme ou pour l'animal. Et cette fragilité, elle est accentuée par le fait que la mort est un événement imprévisible. Au verset 19, nous avons le mot « sort », le sort des humains, le sort des animaux, de l'animal. Dans la Bible, ce mot « sort » désigne quelque chose qui arrive au hasard ou qui arrive de manière imprévue. Et c'est bien le cas de la mort qui arrive sans prévenir, ce qui renvoie là encore à la fragilité de l'être humain. L'homme n'est pas maître de son souffle. Et dans la section précédente, dans ce chapitre 3, avec ce poème sur les différents temps, cette succession de temps qu'il y a dans notre vie, on s'en souvient, au verset 1 à 8, l'Ecclésia avait dressé le constat d'un manque de prévisibilité. On ne maîtrise pas les circonstances, on ne sait pas de quoi demain sera fait. L'Ecclésiaste dira un peu plus loin, j'affiche la référence ici, dans le chapitre 8, verset 8, « Personne n'est maître de son souffle de vie, personne ne peut le retenir, personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. » Ou encore au chapitre 9, verset 12, « En effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend, il est pareil aux poissons qui sont pris dans les filets par leur malheur, il ressemble aux oiseaux pris au piège, les humains, sont surpris par le malheur qui fond sur eux à l'improviste. » Le combat contre la mort est perdu d'avance. On n'en est pas maître. La mort prend l'être humain au dépourvu. La mort fait ressortir notre impuissance. Rien ne peut nous soustraire à la mort de notre corps, la mort physique. Devant cette mort, humains et animaux sont égaux et retournent à la poussière, comme dit notre verset 20 ici. Oulala. Voilà. Tout va au même endroit, tout a été tiré de la poussière et tout retourne à la poussière. L'Ecclésiaste a très certainement en tête ici le texte de Genèse 3, verset 20, quand Dieu s'adresse à Adam, « Car toi tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». La mort est terrible. Il y a dans la mort quelque chose de scandaleux, d'anormal. Quand l'Éternel Dieu a créé l'être humain, Genèse 1, Genèse 2, l'être humain avait accès à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Et grâce à cet arbre de vie, l'être humain pouvait vivre éternellement. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils vivent dans la dépendance à son égard. Mais on connaît l'histoire. L'être humain a décidé autrement et a revendiqué son autonomie en désobéissant à Dieu et en mangeant le fruit de l'arbre dont Dieu avait dit de ne pas en manger et Dieu avait légiféré là-dessus. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit » de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'être humain a désobéi à Dieu, et la mort en a été la conséquence la plus terrible. L'être humain vivait dans le jardin d'Éden, dans une communion parfaite avec son Créateur. Il pouvait manger du fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement. Mais à cause de sa désobéissance, Dieu l'a retiré du jardin d'Éden pour qu'il n'ait plus accès à cet arbre de vie. La fin du chapitre 3 du livre de la Genèse dit ceci. L'Éternel Dieu dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il a été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens, pour barrer l'accès à l'arbre, l'accès de l'arbre de la vie. La rébellion de l'être humain à l'égard de Dieu se retourne donc contre lui. Il meurt en n'ayant plus accès à cet arbre de vie. La mort permet en quelque sorte de mettre un frein au mal, à ce mal qui venait de faire son entrée dans le monde. Quand on est mort, on ne commet plus le mal. Ces trois premiers versets, du coup, nous, dans notre texte, nous font porter un regard sur le passé et dresser un constat avec l'Ecclésiaste, le constat d'une terrible déchéance, cette déchéance qui s'est abattue sur l'être humain à cause de son péché. Mais l'Ecclésiaste ne s'arrête pas à ce constat. Voici ce qu'il dit dans le verset 21. Qui connaît le souffle de l'être humain qui monte quant à lui vers le haut, tandis que le souffle de l'animal descend vers le bas, à la terre? Dans le texte original, le mot hébreu qui sert à désigner le mot souffle peut signifier aussi l'esprit. Et dans ce verset 21, l'Ecclésiaste joue sur les deux sens du mot en hébreu. Pour l'animal, il s'agit simplement du souffle respiratoire qui va descendre vers la terre, vers le bas, pour redevenir poussière. Par contre, pour les êtres humains, l'Ecclésiaste n'évoque pas le souffle respiratoire, mais bien plutôt l'esprit de l'être humain, dont l'être humain est doté, contrairement aux animaux. Et c'est la raison pour laquelle une traduction comme la Bible du Semeur va traduire par l'esprit de l'être humain à la place de souffle de l'être humain. Et elle a parfaitement raison, parce que c'est le même mot en hébreu qui sert à désigner le souffle respiratoire d'un animal, tout comme d'ailleurs le souffle respiratoire d'un être humain, mais aussi ce même mot qui sert à désigner l'esprit d'une personne, c'est-à-dire le siège de sa conscience, de son intelligence, de ses émotions, de sa volonté, etc. Et donc les versets 19 à 21 considèrent les choses sous deux aspects qui sont différents. Au verset 19, dont on a parlé tout à l'heure, d'un point de vue physique, la mort est la même pour les humains et pour les animaux. Ils ont un même souffle, sous-entendu un souffle respiratoire. Et la mort physique de l'animal, tout comme de l'être humain, se manifeste par l'arrêt de ce souffle, au verset 19, et par le retour à la poussière, au verset 20. Mais par contre, dans le verset 21, la mort de l'être humain diffère de celle de l'animal. L'être humain a été créé en image de Dieu, et même s'il meurt, comme les animaux sur le plan physique, son esprit retourne auprès de Dieu après la mort. Même avec sa nature pécheresse, l'être humain n'est pas réduit à la condition de l'animal. Il y a une réelle différence devant la mort entre animaux et être humain. Revenons sur la question qui est posée dans ce verset 21. Qui connaît le souffle de l'être humain? L'Ecclésiaste insiste ici sur, il faut le reconnaître, le peu de connaissances que nous avons de la nature de cette différence entre le sort de l'être humain et celui de l'animal. Et il faut bien reconnaître que quand une personne décède, concrètement, on ne perçoit pas bien cette différence. Ce qu'on voyait de cette personne avant sa mort se trouve maintenant être simplement un corps inerte, sans vie, éteint, et que l'on va s'apprêter à porter en terre. Mais par contre, son esprit, on ne le voit pas concrètement monter vers le haut. Et cela peut engendrer des doutes, des craintes de la mort, même chez les croyants. Comme l'a dit Olivier tout à l'heure, il y a bien des choses dans la vie aujourd'hui qui peuvent générer des doutes, des appréhensions, des craintes. Et c'est normal. On aimerait pourtant connaître davantage sur l'au-delà de la mort. Quelques versets avant, dans le texte précédent, au chapitre 3, verset 11, L'Ecclésiaste avait dit que Dieu a placé dans le cœur de tout être humain la notion de l'éternité. Nous avons conscience qu'il y a plus que les réalités visibles, concrètes, palpables. Il y a quelque chose de plus, mais pour autant, nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants de cette éternité. Ceci étant, devant la réalité de la mort qui arrivera tôt ou tard dans le futur, l'Ecclésiaste nous invite à une réelle espérance. L'espérance, d'ailleurs, par définition, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. L'apôtre Paul dit en Romains 8, verset 24, « Nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit ?» Question rhétorique ici. L'Ecclésiaste nous invite donc à prendre conscience et à avoir confiance qu'il y a bel et bien un avenir pour l'être humain au-delà de la mort. Et ça ouvre la voie à une espérance, encore certes bien imprécise quant au contour, mais une espérance bien réelle malgré tout. En attendant la réalisation de cette espérance, la vie sous le soleil demeure marquée par cette dure réalité, cette vanité dont l'Ecclésiaste s'entretient avec nous depuis le début de ce livre. La vie est brève et la mort arrivera tôt ou tard. D'une certaine manière, la vanité suprême, c'est bien la mort de l'être humain. Tout ce que fait l'homme est vain car il meurt et il doit laisser le produit de son travail à d'autres. Alors, à quoi bon vivre puisque de toute façon, on va mourir ? Et on se souvient que c'est à peu près la même question que l'Ecclésiaste avait posée au verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? Mais l'Ecclésiaste nous invite à affirmer avec conviction que malgré tout ce que la vie présente peut avoir de frustrant, de difficile, d'éprouvant, eh bien la vie vaut la peine d'être vécue. Relisons le verset 22. J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir au milieu de ses activités, car c'est là sa part. En effet, qui le fera revenir pour qu'il voie ce qui sera après lui ? Nous réjouir au milieu de nos activités, c'est là notre part, nous dit le texte. La part. La part, ça veut dire que c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas non plus quelque chose sans limite. Non, ça a des bornes. Mais c'est quelque chose. Ce qui nous motive, entre autres, à jouir de cette vie présente, de notre activité, c'est la question que l'Ecclésiaste pose à la fin de ce verset 22. Qui le fera revenir pour qu'il voie ce qui sera après lui ? L'être humain ne peut pas savoir ce qui lui arrivera demain, après-demain. Alors, à plus forte raison, comment pourrait-il savoir ce qui arrivera après lui quand il sera mort ? Cette expression « ce qui sera après lui » elle revient à plusieurs reprises dans son livre, toujours avec la même optique, au chapitre 6, verset 12, au chapitre 7, verset 14, au chapitre 10, verset 14, toujours pour désigner qu'on ne peut pas savoir ce qui arrivera après notre mort, après lui, après nous. L'Ecclésiaste affirme, sans qu'il y ait de confusion possible, qu'il y a une séparation entre les vivants et les morts. Les morts ne pourront pas venir partager quelques consolations ou intervenir parmi les vivants. Il dira d'ailleurs un peu plus loin, chapitre 9, verset 6, que les morts n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. Personne donc ne nous fera revenir pour voir ce qui sera après nous. Alors, réjouissons-nous de l'instant présent, de ces bonnes choses que Dieu nous donne dans sa grâce. C'est un refrain qui revient pour la quatrième fois dans ce livre. De savoir profiter, saisir toutes ces bonnes choses que Dieu nous donne au milieu de notre activité sous le soleil. Je vous invite à vous poser une question qui peut-être va vous paraître très surprenante. mais je l'ose quand même. Imaginez que vous puissiez connaître à l'avance quel sera le jour de votre mort. Est-ce que vous aimeriez le savoir? Je suis heureux d'apprendre que vous ne souhaiteriez pas le savoir. Bon, de toute façon, on ne peut pas. Peut-être ce sera dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Si nous pouvions le savoir, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que vous seriez rassuré? Honnêtement, j'en doute. Oui. Certainement plus, vous vivriez dans l'anxiété. Dans l'anxiété, dans l'attente de ce jour fatidique. Ou alors peut-être vous seriez tenté de vous dire « Oh là là, j'ai encore tant d'années devant moi, donc je peux vivre dans l'insouciance, tranquillement. » C'est un raisonnement par l'absurde, peut-être d'ailleurs c'est un raisonnement absurde, car fort heureusement, on ne peut pas connaître ce moment-là à l'avance. Heureusement qu'on ne peut pas le connaître, parce que ça nous amènerait, je pense, très certainement à l'opposé de ce que l'Ecclésiaste veut nous inviter à vivre ici dans ce verset 22 et dans l'ensemble de son livre. C'est-à-dire à vivre en nous réjouissant de chaque jour qui passe, à tirer le meilleur profit de tout ce que nous pouvons vivre dans notre activité, à jouir de ce qui est bon, à apprendre à vivre dans la reconnaissance. Merci Seigneur, pour les personnes que tu as mises à mes côtés. Merci Seigneur pour l'Église dans laquelle je chemine avec tous mes frères et mes sœurs, même s'ils ne sont pas parfaits. Et d'ailleurs, moi non plus, je ne le suis pas. Merci Seigneur pour mon travail cette semaine, même si c'est dur de travailler. Merci Seigneur pour la récolte, la dernière récolte. Merci Seigneur pour le sport que j'aime pratiquer ou regarder. Merci Seigneur pour le repas que je m'apprête à prendre. Merci Seigneur pour le souffle respiratoire que tu me donnes aujourd'hui encore. L'Ecclésiaste nous invite à nous réjouir de chaque jour, à profiter de chaque jour, mais non pas à la manière du carpe diem, cette expression qui veut dire cueille le jour sans te soucier du lendemain, vas-y, profite. Il ne s'agit pas de dire, comme le fameux proverbe qu'on trouve dans la Bible, mangeons et buvons car demain nous mourrons, alors profitons d'aujourd'hui, on va manger, on va boire, on va se réjouir. Ce n'est pas ça que l'Ecclésiaste nous dit. Il me semble bien plutôt qu'il nous faut nous soucier du lendemain. C'est profondément biblique de nous soucier du lendemain, de nous soucier des conséquences de nos actes, mais tout en saisissant l'instant présent, tout en jouissant profondément de ce qui est bon, de ce que Dieu nous donne dans sa grâce, de tout ce qui est à sa gloire. Apprenons à nous réjouir de la vie que Dieu nous donne. C'est là la part qu'il nous donne dans sa grâce. Et cette réjouissance ne peut être bonne que si elle est vécue dans la soumission à Dieu, à sa volonté. L'Ecclésiaste dira un peu plus loin dans le livre, c'est presque sa conclusion, hein. Jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes années et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse. Marche sur les chemins où tu voudras aller. Et va vers ce que tu désires, en sachant que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur, garde-toi de ce qui te causerait de la souffrance, car la jeunesse, le printemps de la vie sont dérisoires. Et tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse. Ça vaut pour les jeunes, mais ça vaut pour chacun d'entre nous. Voilà ce que l'Ecclésiaste nous invite à vivre. Nous réjouir au milieu de notre activité, tout en vivant dans la soumission à Dieu, dans le respect de Dieu et de sa volonté. Les versets 18 à 20 donc nous amènent à porter un regard sur le passé et dresser le constat avec l'Ecclésiaste de cette terrible déchéance qui a atteint l'être humain du fait de son péché. Mais le verset 21 nous invite à porter un regard vers le futur et prendre conscience de la réelle espérance que nous avons, quand bien même nous n'avons pas tous les contours de cette espérance. Mais elle est bel et bien réelle. Et enfin, le verset 22 nous fait porter un regard sur le présent, sur aujourd'hui, afin d'expérimenter une profonde réjouissance, loin du carpe diem, mais une profonde réjouissance vécue en Dieu, dans la soumission à Dieu et à sa parole. Avant la conclusion de cette prédication, une fois n'est pas coutume, je nous invite à une pause pour faire résonner ce que nous avons dit jusque-là, en chantant, et je vous invite à vous lever et les musiciens à revenir, en chantant ce chant bien connu, « Toi qui disposes », alors à la manière traditionnelle, « Toi qui disposes », et je vous invite à vous lever pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, à ce Dieu qui nous donne dans sa grâce. Je le disais en introduction, la mort est très certainement l'une des réalités, sinon la réalité la plus difficile se rapportant à l'existence humaine. Nous ne pouvons pas nous cacher de la mort. Gardons-nous de toute tentative qui chercherait à apprivoiser, à contourner ou à dépasser la mort. Toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. Des tentatives comme tout ce que la science peut apporter avec des progrès de la médecine qui prolongent la vie. Et c'est bien, et il y a de bonnes choses. Mais jusqu'où? Et jusqu'à quand? La tentative qui consisterait à sombrer dans l'insouciance ou le rire pour tenter de remettre la mort toujours à plus tard. Je ne veux pas y penser, alors je veux rire bêtement, me réjouir bêtement. Boire, profiter de la vie. Ou alors, à l'opposé de l'insouciance, des tentatives comme la fascination de la mort, voire même la valorisation de la mort, telle qu'on peut la rencontrer dans des religions qui prônent la réincarnation. On croit alors, dans ce type de religion, conjurer le sort en considérant qu'il est bon de s'affranchir de la vie présente, en cherchant quelque chose de mieux dans une nouvelle vie, après avoir été réincarné via le passage de la mort. Et en ce sens, la mort, elle est valorisée dans de telles croyances, parce qu'elle permet de passer à un meilleur statut. C'est ce qu'on croit dans ces religions-là. Un meilleur statut, un vivre mieux, une vie meilleure, Il y a chez l'être humain cette volonté de bannir la mort, de chercher à tout prix à s'en affranchir. Parce que finalement, derrière toutes ces tentatives, qu'est-ce qu'on retrouve ? Derrière ces tentatives d'apprivoisement, de contournement ou de dépassement de la mort, l'être humain cherche un moyen d'être sauvé. D'être sauvé de cette condition humaine dérisoire, vaine. Dans ce qu'il dit dans le texte que nous avons médité ce matin, et ce qu'il dit plus largement dans l'ensemble de son livre, l'Ecclésiaste pointe du doigt, d'une manière remarquable, ce qui faisait l'objet de son espérance, la personne du Messie. Et pour nous, il s'agit de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Comment l'être humain peut-il être sauvé ? La Bible nous dit que seul Dieu pouvait remporter ce combat, cette bataille, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort est une ennemie qui doit être vaincue, et Jésus-Christ en est ressorti victorieux. Et alors même que nous méditons un texte de l'Ancien Testament, l'espérance de ces hommes et ces femmes de Dieu, dont l'Ecclésiaste faisait partie, nous amène aujourd'hui encore à tourner notre regard vers celui seul qui pouvait remporter cette bataille contre l'ennemi qu'est la mort, Jésus-Christ, Jésus le Messie. Nous prêchons Jésus-Christ mort et ressuscité, et sa mort et sa résurrection sonnent comme une victoire réelle sur une mort réelle, à laquelle nous aussi nous devrons faire face. Mais notre espérance ne sera jamais déçue. En Jésus-Christ, la vie éternelle nous est donnée, offerte par grâce, si nous plaçons notre confiance en lui. Et nous voulons affirmer avec force, le texte va s'afficher, ces mots de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, verset 55. « Ô mort, qu'est devenue ta victoire ? Ô mort, où est ton dard ?» Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.